Voici l'alliance que j'établis avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur intelligence, je les inscrirai aussi dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. On a vécu une semaine de club juste super. J'avais marqué « génial ». Je ne sais pas si c'est génial, parce qu'on n'est pas des génies. Dieu est un génie, mais pas nous. Mais juste super. Et juste super parce qu'on peut constater à la fin que tout s'est bien passé. Ouais, tout s'est bien passé. Mais tout s'est bien passé parce que d'un bout à l'autre de la chaîne, tout le monde a fait son petit boulot ou son grand boulot, bien avant le club. Tout un travail d'administration, de préparation, de mise en place, de contact. Pendant le club, alors, je ne vais pas tout dire, mais il y a un tas de choses qui se font. Il y a des gens qu'on voit devant, qui font l'enseignement, qui préparent les repas, qui préparent les goûters, qui font que tout se passe bien, qui soignent les bobos, qui gardent les enfants des moniteurs pour qu'ils puissent être tranquilles, des gens qui font le ménage le soir. Ça ne se voit pas, ça, mais c'est toujours nickel quand on arrive le matin. Voilà, un tas de choses qui se font comme ça, qui font que ça fonctionne en Église. Et puis, au bout, on a quand même le droit de se dire, sans que ça nous monte à la tête, on a fait du bon boulot. Zut ! À la fin, on peut dire, on a fait du bon boulot quand même. Ce n'est pas orgueilleux de le dire. Mais ça m'interpelle dans le sens de dire, en fait, quel est le boulot que je dois faire pour Dieu? Qu'est-ce que je dois faire pour Dieu? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Là, c'était facile puisqu'il y avait un engagement où on pouvait se mettre dedans. Mais qu'est-ce que Dieu, tous les jours de la semaine, tout au long de l'année, attend de moi? Quel est l'engagement de tous les jours que je peux avoir avec Dieu? Que faire? Comment m'y prendre pour être un bon disciple? Et surtout, qu'est-ce que dit la parole à ce sujet-là? Alors j'ai pensé à deux paraboles qui sont à la fois similaires et différentes, et puis un tout petit verset de Michée qui nous donne des pistes à suivre. Ces deux paraboles, la première c'est la parabole des mines, dans Luc 19. Dans Luc 19, le maître part en voyage, remet à chaque serviteur le même montant à faire fructifier. Il a placé 10 serviteurs, leur donna 10 mines, donc à chacun, et leur dit « Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. » Contrat nickel, impeccable. Notez quand même, et ça c'est important, ce qu'on ne voit pas dans le texte, parce qu'on est absolument déconnecté, c'est ce que c'est que ces 10 mines. Accrochez-vous quand même, les 10 mines représentent 8 kilos d'or. 8 kilos d'or. En gros, 320 000 euros. C'est pas rien quand même. Donc le maître confie ça. Voilà, faites-les fructifier. Bien. Ce montant unique pourrait représenter, et c'est l'image que je veux prendre ce matin, l'Évangile, le seul, le vrai, celui reçu de Jésus. C'est la bonne nouvelle de salut par grâce remise à chaque croyant. Ça, le Christ l'a fait pour chacun. C'est le cadeau qu'il fait. Ce cadeau, il est le même pour tous. Il a remis ça à chaque croyant, mais il l'a remis dans l'idée que chaque croyant puisse le faire fructifier et le transmettre aux autres, à d'autres personnes. C'est un petit peu l'image de l'Évangile. On change de parabole. La parabole des talents. Deuxième parabole, Matthieu 25. Jésus parle ici de montants différents qui sont remis à chacun des serviteurs. Ces montants représentent l'image des dons que Dieu nous donne, que Dieu met en nous, qui sont différents, totalement différents. Il y a dans le club celui qui fait le ménage, qu'on ne voit pas. Il y a celui qui, tous les matins, sonne la corne là, pour appeler tout le monde et qui accueille tout le monde, qu'on voit. Et puis, il y a un tas de personnes qui ont des dons différents qui sont mises au service. Il y a un tas de petites mains l'après-midi qui font les bricolages. Il y a un tas de personnes qui font le sport dehors. Il y en a un qui amène de l'eau tout le temps pour boire à tout le monde. Ce n'est pas rien. Parce que le dernier jour, le samedi, le jeu du samedi, s'il n'y avait pas l'eau qui circulait, je vous garantis qu'on aurait eu très, très soif. Donc voilà, chacun a un don différent. Et là, ce n'est pas concevable pour notre image à nous, mais il va donner des dons différents. 5 talents à l'un, ça fait 240 kilos d'or. 5 talents à un. Ça, c'est ce qu'on voit dans les camions blindés, à peu près. 9 500 000 euros. Alors, on n'est pas sûr de ces montants, mais j'ai pris la moyenne, parce que ça peut être deux fois plus encore. J'ai pris la moyenne par rapport aux monnaies des Hébreux et au poids des Hébreux. C'est quelque chose au poids. Donc, ça donne une idée. Les sommes et les enjeux qui sont donnés, ça veut dire que les dons que Dieu donne sont des dons énormes qu'il nous donne. Énormes, ça veut dire des dons qui ont un pouvoir énorme. Mais comme à l'époque de Jésus, nous constatons, nous, que pour nous, chrétiens, au XXe siècle, nous pouvons constater que nous avons tous reçu, chrétiens, tous reçu, un montant fixe, cette bonne nouvelle, avec le potentiel qu'il y a derrière, un trésor inestimable, le même pour chacun, et puis que nous avons en plus reçu des dons différents, très importants, mais très différents et qui nous sont personnels. Et à nous de faire fructifier ces dons. C'est marqué dans les deux textes. Par rapport à ces deux paraboles, qu'est-ce que nous pouvons retenir aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Ou plutôt, qu'est-ce que Dieu, notre Maître, attend véritablement de nous? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Eh bien, nous pouvons trouver la réponse dans un texte prophétique que vous connaissez, qui est le texte du défi Michée. Michée 6, verset 8. « Ô homme, il, Dieu, t'a déclaré ce qui est bon. » Ah, Dieu déclare ce qui est bon. « Et ce que l'Éternel demande de toi, sinon de faire ce qui est droit, d'aimer la miséricorde et de marcher humblement avec ton Dieu. » Voilà ce que Dieu nous demande. Voilà ce que Dieu demande de nous. Quel est cet enseignement pour nous par la bouche de Michée ? Il est le même pour chacun de nous. Faire ce qui est bien ou bon. Mais pas bon à notre idée à nous. Hein. Bon aux yeux de Dieu. Et on peut légitimement se demander alors, mais oui, mais pourquoi je vais faire moi quelque chose qui est bon aux yeux de Dieu? Ben, d'abord par obéissance. Parce que Dieu nous le demande, simplement. Parce que Dieu nous le rappelle encore une fois. Et il le rappelle souvent dans sa parole. Et puis parce qu'il est Dieu. Et qu'on y est soumis, et parce que c'est sa volonté. Et quelle est la chose la meilleure pour nous et pour lui que de faire sa volonté? C'est aussi simple que cela. Et puis ensuite, parce que c'est vraiment bon pour nous. Car Dieu connaît nos besoins et sait ce qui est bon pour nous. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Matthieu 6, verset 8. Vous avez vu que 6-8, c'est les deux mêmes références, Michée 6-8 et Matthieu 6-8. Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne le lui demandiez. Cela veut dire que ce que Dieu nous demande par la bouche de Michée, c'est véritablement son plan pour la vie en général, le plan pour notre vie, pour notre équilibre et notre relation avec lui. Et c'est finalement le plan de la vie, de la société, de relations voulues par Dieu lui-même, c'est-à-dire la vie avec notre prochain. Et si on regarde bien, c'est à 1000 lieues du fonctionnement de nos sociétés actuelles. Relisons Michée 6-8 dans une autre version en français courant. C'est beaucoup, beaucoup plus intéressant, à mon avis. On vous a enseigné, la conduite juste que le Seigneur exige des hommes. Il vous demande seulement de respecter les droits des autres, d'aimer agir avec bonté et de suivre avec soin le chemin que lui, votre Dieu, vous indique. Là, ça nous parle un peu mieux déjà, un petit peu mieux. Vous avez noté que dans ce texte, il nous est dit, il vous demande seulement, comme si c'était évident. Vous n'avez rien d'autre à faire en fait que ces trois choses-là. En fait, ces trois choses-là sont la base des choses que je vous demande. On pourrait aussi se demander pourquoi, en fin de compte, Dieu nous demande cela, mais il nous suffirait alors juste de relire Exode 20, les 10 commandements. pour voir ce que Dieu nous demande. Pour notre vie, c'est Dieu qui dit « je suis ». C'est Dieu qui dit « je suis ». Et c'est lui qui pose les fondements et émet les règles. C'est ce qu'on a lu, ce que Philippe nous a lu pour la scène dans le texte des Hébreux. « Voici l'alliance que j'établis avec vous. Je mettrai mes lois dans leur intelligence. Je les inscrirai dans leur cœur. » Ce sont les lois de Dieu qui persistent et qui doivent être dans notre cœur. Et l'adverbe « seulement » ici nous invite juste à une obéissance logique de ces règles qu'il a mis en place pour ses enfants. Nous sommes ses enfants, voilà les règles. Voilà les règles que je donne. Je suis son enfant, ben, je dois suivre ses règles. Mais ce n'est pas un « je dois ». Non, je suis son enfant, je suis ses règles. C'est ça le « seulement ». C'est évident. Je suis ses enfants, donc je suis. S-U-I, je suis verbe être. Hein. Je suis son enfant, donc je suis. Verbe aller. Je suis, oui, je suis verbe suivre, pardon, verbe suivre. Ouais, c'est pas évident. Hein. Je suis verbe suivre, ces règles. En français, c'est le même mot. Alors, dans ces règles, il y a précisément trois points. Premier point, pratiquer la justice. Notre deuxième texte nous disait respecter le droit des autres. Pratiquer la justice, on va dire, bah oui, moi je pratique la justice. Respecter le droit des autres, ça c'est déjà plus, ça engage déjà plus. Hein. Cela nous semble évident pour nous. Pourtant, il y a rappel de Dieu. Il y a rappel de Dieu. Nous devons donc nous examiner à l'écoute de sa parole et éventuellement nous remettre en question sur nos fonctionnements dans notre société. Vous pensez bien que si Dieu insiste qu'il y a justice à pratiquer, c'est bien parce qu'il sait qu'il y a injustice. Ça, on doit se mettre dans la tête aussi. Et que cette injustice, elle ne vient pas de lui. Mais elle vient bien des hommes. Injustice parce que originellement il y a eu péché, désobéissance de l'homme dans le plan de Dieu. Et de sa désobéissance, l'homme a vite dérivé vers une vie sans Dieu, où la justice est devenue la sienne, sa propre justice, de plus en plus personnelle. Sa propre justice dans un monde où la notion de justice de Dieu est totalement absente. Totalement absente. Nous ne feignons pas d'être étonnés. Notre société s'est organisée totalement sans Dieu. Et de plus en plus, sous couvert notamment de laïcité, on s'organise de plus en plus dans le rejet de la notion même de Dieu. C'est incroyable que dans un pays comme le nôtre, on en vienne, par exemple, à remettre en question ou que ça fasse des grosses histoires qu'il y ait une crèche à Noël dans une mairie, simplement. Bien sûr, c'est un lieu laïque, mais jusqu'il y a quelques années, ça ne posait pas de problème. Après tout, c'était passé dans une tradition. Alors, on veut bien fêter Noël et dire « il y a Noël » et faire la crèche chez soi, mais dans un lieu public. Ah non, surtout pas. C'est une hypocrisie qui montre bien que notre monde veut absolument éliminer le nom, la pensée même, l'image même, l'idée même de Dieu. Une société où Dieu est notamment, non seulement absent, mais refusé, refoulé, voire même banni, simplement. Ça, c'est notre société. On n'y peut rien. Si, on y peut quelque chose. Lui, le créateur de toutes choses, on le bannit de notre société. C'est le monde à l'envers. Le monde à l'envers. L'âme humaine a bien souvent pris le dessus. La justice humaine n'est plus guidée par l'amour de Dieu. Mais d'ailleurs, pas plus que par l'amour de l'homme. Elle est guidée par l'égoïsme, l'intérêt individuel, le profit. Comment alors, en tant que chrétien, comprendre, pratiquer la justice ? Eh bien, il me semble d'abord qu'il faut être juste en parole. En parole. C'est-à-dire en nous engageant dans une démarche où notre parole soit d'être véritablement digne de foi. Que ma parole soit reconnue comme étant juste. Une parole saine, juste, vraie. Jacques 5, verset 12. On l'a un petit peu entendu ce matin, que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement de Dieu, celui-là. Ça veut dire qu'on ne puisse pas vous mettre en porte-à-faux par rapport à ce que vous dites en comparaison à ce que vous vivez ou ce que vous annoncez le dimanche et ce que vous vivez la semaine ou ce que vous dites le dimanche et ce que vous dites la semaine. C'est l'image de Pierre qui a dit « je te suivrai jusqu'au bout » et qui, au bout du bout, justement, dit « non, non, celui-là, je ne le connais pas ». Et il le dit trois fois « non, non, je n'ai rien à voir avec lui ». Voilà, ce n'est pas ce que nous demande le Christ. Et pourtant, Christ va utiliser Pierre. Donc, il peut aussi nous utiliser. Ainsi, nous comprenons l'importance que Dieu donne à la parole donnée, à la parole posée, sur laquelle il n'est ni nécessaire ni prévu de revenir. Pratiquer la parole juste. C'est pour ça qu'on nous dit qu'il faut tourner 7 fois la langue dans notre bouche. Exercice difficile, hein ? On trouve même 7 fois, 70 fois. Comprenez, pour que la langue est un muscle, on a besoin de l'utiliser, mais de le tourner dans la bouche aussi. Voilà l'enjeu de notre témoignage. Et le 7 fois, 77 fois, c'est valable pour moi le premier, c'est valable pour chacun de nous. Voilà l'enjeu de notre témoignage, de l'impression que nous laissons dans nos relations orales, de la justesse de ces relations orales, c'est-à-dire nos contacts avec les autres. Puis notre texte sous-entend qu'il faut pratiquer cette justice en acte. Et c'est ce à quoi nous invite le texte du défi Michée depuis tant d'années. C'est aussi ce que nous lisons dans la Bible, notamment avec cette formule qui nous invite à plusieurs endroits à prendre soin de la veuve et de l'orphelin. Ça, ce sont des actes précis. Agir, des actes, agir. C'est pour ça que je pensais à suivre, marcher avec Dieu, suivre Dieu, mais c'était marcher, aller avec Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu, mais surtout d'un Dieu d'action. C'est-à-dire que Dieu met en nous le principe de mettre en œuvre des actions sur la pensée qu'il arrivait dans notre cœur. Tout ce qu'il a mis dans notre cœur, c'est pour travailler à son service, au service des autres. Malheureusement, les temps bibliques sont passés. Et la justice et le profit des hommes ont généré tant d'inégalités et tant d'injustices que le monde est coupé en deux. Et j'ai envie de dire, il est coupé en deux dans tous les sens. Entre le nord et le sud, entre l'est et l'est, entre les nantis et les pauvres, et nous sommes les nantis. Qui peut dire de nos jours qu'il n'a jamais vu quelqu'un dans le besoin ? Au près ou au loin ? Mais personne, personne. Par contre, il nous est souvent plus difficile de dire ce que nous avons fait de concret pour aider celui qui est nommé dans les Écritures notre prochain. Nous sommes, bien sûr, sollicités de toutes parts. Il y a autour de nous tellement de besoins, de tous ordres, moraux, physiques, pécuniaires, tant de souffrances, que le chrétien ne peut définitivement pas rester indifférent au fait que, justement, les richesses ou les avantages soient si mal répartis. Dieu lui demande, Dieu nous demande d'agir en tendant directement la main à notre prochain. Et combien nous avons d'opportunités, de possibilités dans notre monde, ici, autour de nous, d'aider, tant nos citoyens sont souvent démunis. Et cela nous amène au troisième moyen de pratiquer la justice qui doit être le nôtre. Pratiquer la justice en vérité, dans le respect. Dieu nous met devant nos responsabilités. Il nous demande de vivre en hommes et en femmes qui ont été sauvés par lui, graciés par lui, justifiés par lui, régénérés par lui. Tout ça, c'est comme ça qu'on doit vivre. C'est en ayant ce potentiel, ces choses qui ont été faites pour nous, pour que nous puissions nous aussi nous placer devant les gens qui sont dans le besoin, qui n'ont pas été justifiés, qui n'ont pas été sauvés, qui n'ont pas été régénérés. Il nous demande simplement, on a vu ce mot, seulement, simplement de vivre. Ce n'est pas un effort spécial d'engagement que Dieu nous demande. Non, c'est d'avoir une vie à son service. Simplement, une vie à son service, qui passe par le service des autres, parce que c'est ce qu'il nous demande. Lui est venu pour nous servir. En nous sauvant, il nous demande de nous mettre au service aussi. Être vrai dans notre vie. Je suis enfant de Dieu, et donc je vis et j'agis en conséquence parce que le Christ est venu à mon service. Une vie de justice, de vérité, de fidélité à notre Dieu. Proverbe 21:21. Celui qui poursuit la justice et la fidélité trouve la vie, la justice et la gloire. Si vous cherchez la gloire, cherchez pas plus loin. Vous avez trouvé. Proverbe 21:21. Deuxième point, aimer la miséricorde. Dieu nous demande ensuite, donc, d'aimer la miséricorde. C'est curieux, hein ? Aimer la miséricorde. Il nous demande pas seulement d'être miséricordieux, mais d'aimer la miséricorde. Trois traductions de Bible différentes. Français courant nous dit « aimer agir avec bonté ». C'est bien plus qu'agir avec bonté. Hein ? Aimer agir avec bonté. J'ai du plaisir à agir avec bonté. J'ai du plaisir à aider. J'ai du plaisir à faire plaisir. Simplement. C'est énorme. La Bible du Semeur nous met « prendre plaisir à témoigner de la bonté ». C'est la même idée. Et Tob, Colombe, nous met « aimer la fidélité ». J'ai un peu envie de dire, on a envie de prendre son pied là-dedans. On a envie d'être « ah, oh, c'est vraiment génial, quoi ». C'est vraiment génial, génial ce qu'il nous faut, ce qui nous est demandé d'être fait. Et ça, on a vraiment à l'assimiler. Ça veut dire être naturellement tourné vers les autres, vers celui qui est dans le besoin, et d'appliquer cette justice qui est devenue la nôtre. De l'appliquer en parole, bien sûr, c'est-à-dire en n'hésitant pas à nous engager dans la société pour dénoncer l'injustice. Ouais, j'ai envie de dire contacter les autorités dans le but de faire prendre conscience des défauts ou des besoins. C'est notre place dans la société. On n'est pas des gens placés hors la société. Non, c'est notre place aussi de dire les choses telles qu'elles sont. Prendre du temps aussi pour encourager ceux qui sont placés sur notre chemin, que ce soit notre prochain ou encore celui qui lui vient en aide. Ça veut dire aussi peut-être s'engager dans l'aide, dans des associations, des choses comme ça. Dieu nous demande de prendre la décision d'agir, mais d'agir, de réagir, c'est-à-dire plutôt à la place de l'indifférence, mettre la compassion et mettre la miséricorde. C'est ça qu'il nous demande. Il nous demande d'aimer cela. Un état d'esprit ouvert et attentif. Et puis Dieu nous demande bien sûr de l'appliquer en acte. Alors il y avait déjà des actes dans ces paroles, bien sûr, vous l'avez compris. Mais de l'appliquer en acte en aidant d'abord, de façon pratique sur le terrain. Je peux pratiquement faire quelque chose pour mon prochain. Et puis si l'occasion m'est donnée, ben, je lui annoncerai la bonne nouvelle. Mais bien souvent, on a d'abord besoin d'aider. Soupe, savon, salut. L'armée du salut. Soupe, savon, salut. Il y a d'abord soupe. Après, il y a encore savon. Puis après, il y a salut. Il n'y a pas salut, puis après soupe et savon. Parce qu'on le conditionnerait encore à l'autre. On est tellement tordu qu'on le conditionnerait encore. Il n'y a pas à conditionner. Il y a à aimer d'abord. Soupe, savon. Et puis le salut viendra. Dans le cas où il y a soupe et savon, déjà, la bonne nouvelle, elle est tellement vécue souvent dans l'acte, simplement, que souvent notre vie elle-même annoncera cette bonne nouvelle directement et le contact sera beaucoup plus facile. L'ordre des choses semble important là. Il faut d'abord agir. Bien sûr, il faut prier. Bien sûr, il faut prier. Avant, pendant, mais... Il ne faut pas simplement se contenter de prier, se faire une bonne conscience parce qu'on a prié. Non. On a besoin d'agir et de le faire avec plaisir et de le faire avec fidélité. Dans la Bible, il est écrit 14 fois « tu aimeras ». 14 fois « tu aimeras ». Dans ces 14 fois, 5 fois est écrit « tu aimeras ton Dieu ». Et 9 fois, il est écrit, tu aimeras ton prochain, comme toi-même. Et 2 fois, les 2 fois qui restent, il est écrit, tu aimeras Dieu et ton prochain. C'est incroyable, le nombre de fois. La différence, c'est bien que c'est important. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, dit Jésus à la personne à qui l'interrogeait. Fais cela et tu vivras. Fais cela et tu vivras. Puis le troisième point qui nous est simplement demandé d'appliquer, c'est de marcher simplement avec Dieu. Marcher humblement avec Dieu. Nous l'avons dit, il s'agit pour nous du seul chemin. C'est ce chemin dont il nous est dit qu'il est étroit et rocailleux. Il est étroit et rocailleux. Non seulement le chemin pour trouver le Christ, mais le chemin pour marcher avec le Christ. Il est étroit et rocailleux. C'est le chemin normal du croyant. C'est le chemin de la vie, de la reconnaissance envers celui qui nous guide et qui nous accompagne. C'est en sorte aussi un retour normal de respect et de remerciement pour cette vie qui nous est donnée par Dieu. Et c'est un acte, action de marché. Cet acte est pour notre bien, puisque Dieu nous le demande et que notre pronostic vital, en fait, est en jeu. Combien de fois, on pourrait demander aux personnes de lever la main ici, combien de fois votre médecin, dont le métier est prendre soin de votre corps, vous a dit pour votre bien qu'il faut plus marcher. Si c'est Dieu qui nous le demande, est-ce que ça n'a pas encore plus d'importance que notre toubib ? Si c'est Dieu qui nous le demande. Et en plus, c'est marcher pour lui. Dans les traductions de ces paraboles, les différentes traductions, il est demandé aux serviteurs de faire des affaires, de faire fructifier la somme qui a été remise à chacun d'eux. C'est exactement ce que Dieu souhaite et désire pour nous, que nous fassions fructifier le potentiel de vie qu'il nous a confié. Le grain de blé, dans une autre parabole, le grain de blé est semé en terre pour produire. Un grain va produire 10, l'autre grain va produire 100. Et d'une année à l'autre, on le voit avec le jardin, c'est pas pareil. Les conditions ne sont pas les mêmes. Mais il nous est dit que le grain doit mourir. Il doit mourir. C'est-à-dire mourir à l'injustice, à l'inaction et à l'insensibilité, pour pouvoir porter du fruit et revêtir la justice, la miséricorde et revêtir la vie. Alors, ce que j'aimerais qu'on garde aujourd'hui de ce passage, c'est que Dieu a fait sa part. Il a fait largement sa part, Dieu. Il a donné, il a payé cher. Ce qu'il souhaite, c'est que nous fassions notre part. Vous connaissez l'expression de la langue française, dont bien souvent les médias se vantent, le savoir-faire à la française. Quel est le savoir-faire des enfants de Dieu ? Le savoir-faire des enfants de Dieu, ce qu'on a acquis, dont on peut être fier. L'apprentissage, les commandements de Dieu, l'enregistrement, on l'a lu ce matin, gravé au fond de notre cœur, le mode de vie, Dieu nous donne les choses. Ça, c'est le savoir que Dieu a donné. Et puis, il reste le faire. Dans savoir-faire, il reste le faire, l'action, le jeu de l'amour. Je peux le conjuguer à toutes les personnes. Je t'aime, je t'aimerai. Je t'aide, je t'aiderai. Le faire sur la base des acquis de vie donnés par Dieu, les mines et les talents, les acquis qu'il a donnés une fois pour toutes à chacun, la base, le package de base, et puis ce qu'il a donné à chacun de savoir-faire justement avec ses mains, capacité, une action consciente et décidée, mais qui devient tellement évidente pour l'enfant de Dieu qu'elle en est l'essence même de façon quasi inconsciente, j'ai envie de dire. Aimer tout court parce que Dieu nous a aimés le premier. Aimer tout court parce que Dieu nous a aimés. Si Dieu ne nous avait pas aimés, nous n'aurions pas ce savoir et ce faire de la part de Dieu. Dieu nous demande dans cette petite phrase de Michée de faire preuve de savoir-vivre, savoir-faire et savoir-vivre. Vous savez, il y a dans l'Évangile ce passage où le serviteur finalement est inutile. Finalement, ça, je ne sers à rien, il est écrit. Est-ce que je suis un serviteur utile ou inutile ? Est-ce que je fais ce qui est bon ? Et c'est ce que nous dit Michée, faire ce qui est bon aux yeux de Dieu. Est-ce que je fais ce qui est bon ? Il me semble important aujourd'hui dans un monde qui manque tellement de tout, mais de tout, de d'écoute, de parole, d'amour, de compassion, de partage simplement, de simplicité, d'honnêteté, de vérité, que nous soyons non seulement à l'écoute de nos concitoyens, mais à l'œuvre. C'est notre mission, c'est notre mission. Et il nous est dit encore que la moisson est grande. Il y a beaucoup de champs à moissonner. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes, des pies à cueillir, mais qu'il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers. Alors même si on a eu un club d'été où on était engagé, je ne sais pas moi, 60, 70, je ne sais pas combien on était, eh bien, oui, de façon générale, dans notre vie de tous les jours et dans la vie de l'Église, il y a souvent peu d'ouvriers. Alors ça doit nous remettre en question. Il y a peu d'ouvriers. La Bible nous le dit 3 fois. Il y a peu d'ouvriers. Remettons-nous à Dieu. Ayons la foi. N'ayons pas peur de vivre l'Évangile. Et puis j'aimerais conclure en relisant 2 petits textes complémentaires. L'un pour nous permettre de nous mettre en marche en toute sérénité et de nous tourner vers Dieu dont nous vient notre foi. Philippiens 2, verset 13. C'est lui, Dieu, qui opère en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est lui qui met en nous cette envie, cet aimer qui doit venir de nous et se faire. Et ça, c'est lui qui le veut et c'est ce qui est bon pour lui, c'est son bon plaisir. C'est la copie conforme de ce que nous dit Miché. On pourrait relire aussi les 10 commandements. Ils sont une source de renouvellement et une base de vie, de miséricorde, de justice, même s'ils datent de temps ancestraux. Et puis nous remémorer cette phrase de Jésus dans Matthieu 25, 40. Je vous le déclare, c'est la vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et il y a aussi le contraire. Ce que vous n'avez pas fait, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Alors peut-être qu'on puisse, après un truc qui a bien marché comme le club, pour tous les jours, se remettre en question, qu'est-ce que je peux faire encore ? C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux continuer à faire ? Qu'est-ce que je fais tous les jours ? Dans quoi je m'engage ? Alors, je vous invite à un petit moment de silence, puis si une ou deux personnes veulent prier, qu'ils le fassent librement. Seigneur, merci de nous rappeler que tu attends de nous que nous ayons des actes qui sont bons, qui soient bons. Merci de nous rappeler ce que tu as fait pour nous. Merci de nous rappeler d'où nous venons et comment tu nous équipes et ce que ça t'a coûté, Seigneur. Merci pour ces mines et pour ces talents que tu nous donnes, que tu nous offres. Seigneur, grave dans notre cœur ou regrave dans notre cœur ou dépoussière le fait que tu nous as demandé de faire fructifier cela. Alors aide-nous à être attentifs, Seigneur, et à regardez où tu nous places et à réfléchir à ce que nous faisons pour toi, pour ceux qui sont autour de nous. Seigneur, nous avons besoin de ton aide, mais nous savons que c'est toi qui crée en nous ce vouloir et ce faire. Alors nous te demandons de nous visiter, de nous revisiter les uns les autres et de nous guider et de nous mettre en route ou de nous remettre en route ou de nous pousser à ton service, Seigneur, jour après jour. Que ton nom soit béni, Père. Amen.
Ok, ce culte est presque terminé et les annonces sont très courtes parce qu'il n'y en a pas beaucoup à faire, mais on va en profiter pour faire quelques-unes qu'on ne fait pas d'habitude. Donc les seules annonces de calendrier, c'est que dimanche prochain, il y a le culte. Ça va ? C'était pas trop difficile à suivre ? Vu que ça, c'était pas trop difficile à suivre, point de vue calendrier, j'annonce juste 2 dates pour un peu plus loin, pour la rentrée. Il y a le week-end d'église qu'on rappelle qui aura lieu les 7 et 8 septembre à Champfleury. Pour vous inscrire, vous pouvez vous inscrire soit derrière sur des feuilles qui sont affichées là, soit sur Internet. Demandez-moi si vous n'avez pas reçu le lien par email. Et le week-end d'après Champfleury, le 7-8 septembre, donc le samedi 14 septembre, on aura un concert à l'église de Lucea, je le dis bien, Lucea, je ne savais pas si on disait Lucea ou Lucea. Lucea, c'est le groupe qui est composé, des Francano, Dugon, Élargi, donc que vous connaissez bien. Donc ils ont un groupe, ils feront un concert le samedi 14 septembre ici, Le soir, on précisera l'horaire, on verra, 20h. Mais voilà, réservé le samedi soir simplement. Quelques annonces encore. Il y a un retour sur les infos pour le Burkina, suite au don qui a été fait il y a 15 jours par l'Église, un don important, comme vous l'avez vu par mail. Normalement, ce week-end devait être creusé, non pas un, mais deux puits, avec le don important qui a été fait. Donc, je dis normalement, parce que les infos qu'on a eues vendredi, je ne sais pas si ça s'est fait, mais Jean-Daniel était très reconnaissant qu'à la base, c'était un qui était prévu, et deux puits ont pu être faits dans deux églises différentes, donc au Burkina Faso. Encore une annonce, il y a des objets perdus à la fin, là-bas, dehors, au fond de la salle. C'est des objets du club, donc jetez un œil, parce que si ils ne partent pas d'ici un mois, on donnera tous ces habits à une association, quelque chose comme ça. Donc pensez à jeter un œil. Anne-Marie ?
Pas seulement du club, mais aussi...
Ouais, qui traîne. J'ai dit club, mais c'est élargi. Donc voilà, jetez un œil là-bas. Il y a surtout beaucoup d'habits, quelques gourdes et puis deux, trois autres trucs. Et puis vu que j'ai un petit peu le temps, on va finir sur une devinette. Enfin, pas une devinette, mais aussi une devinette. Ceux qui suivent un petit peu les médias ces temps-ci savent que, je crois que c'est aujourd'hui ou hier, je ne sais plus, c'était les 50 ans d'un événement important de l'homme qui a marché sur la Lune. Et hier, j'ai commencé à regarder un reportage sur ça qui reconstituait étape par étape ce qui s'était passé, avec les retranscriptions entre ce qu'ont dit les astronautes dans les vaisseaux et le centre sur Terre. Et là, j'ai découvert un truc de dingue. Moi, j'ai trouvé ça fou. Je me suis dit, il faut quand même que je vous raconte ça. Est-ce que vous savez tous le premier mot qui a été dit sur la Lune, la première phrase, cette phrase célèbre là, le petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. Et en fait, moi, j'ai appris qu'il y avait une phrase qui a été dite avant, pas sur la Lune, mais quand ils étaient encore dedans, juste avant. Il faut savoir qu'il y a les astronautes avaient eu le droit de prendre un objet avec eux, un objet de leur choix avec eux. Je sais pas, peut-être certains auraient pris un porte-bonheur ou un truc comme ça. Et il y avait un des deux astronautes, donc Buzz Aldrin, qui était là. Ils avaient tout prévu. Moi, je trouve ça fou. Les techniciens avaient tout prévu depuis des mois. Et lui, il a sorti la scène sur la Lune juste avant d'atterrir. Enfin, ils étaient déjà posés juste avant de sortir. Il a sorti du vin, il a sorti un morceau de pain. Et il faut se souvenir que c'était retranscrit en direct à la télévision, tout ce qu'il disait. Et il a surpris tout le monde en disant, ben moi maintenant j'aimerais prier et j'aimerais prendre cette scène que j'ai prise en communion avec mon église locale qui est restée sur Terre. Et il a été, je trouve, assez subtil en disant ça. Il a dit, il n'a pas cité le nom de Dieu. Il a dit, je vous invite, que vous croyez ou pas, à méditer. Et c'est intéressant parce que c'était dans un contexte où il s'apprêtait à ouvrir cette porte et c'était un peu un saut vers l'inconnu. Et je ne sais pas où tu en es, toi, dans ta vie avec Dieu. Des fois, on a Dieu dans notre vie, des fois, on n'a pas Dieu dans notre vie. Des fois, on est face à ce saut de l'inconnu. Peut-être que ce n'était pas sur la Lune, mais tu as un grand pas à faire comme ça. Et je t'invite pour cette semaine à méditer sur ce qu'on a étudié ce matin, ce que c'est être disciple, mais aussi à être connecté à Dieu, être connecté aux autres croyants. Donc souvenez-vous de cet astronaute dans la Lune qui est en train de prendre la Sainte Seine alors qu'il aurait peut-être d'autres choses à faire. Et il a fait une chose intéressante aussi, il avait pris trois objets. Il avait le pain, le vin, et il avait noté sur un petit bout de papier le texte de Corinthiens pour relire les paroles de Jésus sur la Lune. Je trouve ça absolument, absolument incroyable, ce moment. Et voilà, quoi. Donc pensez-y cette semaine. Si tu es face à la Lune, face à l'inconnu, relis peut-être des textes de Jésus pour ta vie. Ouais, vas-y.
Il a dit aussi une parole qui apparemment n'a pas été retenue par les médias. Il a dit, ce qui est important, ce n'est pas que l'homme ait marché sur la Lune, mais c'est que Dieu est descendu sur la terre des hommes.
Bon dimanche, merci.